Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons la romancière, poétesse et essayiste camerounaise Emily Boum, de passage en Roumanie, qui va nous parler de son dernier ouvrage, Le Rêve du Pêcheur, édité chez Gallimard. Le livre a reçu de nombreux prix, dont le prix des 5 continents de la francophonie de 2025, le Grand Prix Afrique et le prix Louis Guillou, entre autres. Avant de commencer l'entretien, je tiens à remercier la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie à Bucarest pour avoir facilité cette rencontre. Emily Boum, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous me disiez avant cet entretien que c'était la première fois que vous visitiez la Roumanie. Alors, Le Rêve du Pêcheur, c'est une histoire de famille, une histoire sur les origines, l'exil, l'amitié, l'amour, la culpabilité, et d'autres choses. On vit plusieurs temporalités, plusieurs lieux géographiques entre Campo et Douala au Cameroun et Paris. Mais votre ouvrage ne donne pas la sensation, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, d'un tourbillon d'événements. Votre style d'écriture très sobre permet de suivre toutes ces vies de façon presque apaisée. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous écrivez?
L'écriture pour moi est un... J'allais dire, je prends ça très au sérieux. C'est un processus important. Au moment où j'écris un roman, j'écris tous les jours. J'éprouve le besoin d'accorder du temps à cette écriture absolument tous les jours. Parce que, je le dis et ça peut prêter à sourire, l'écriture précède l'inspiration. C'est au moment d'écrire, le roman s'écrit en s'écrivant. Tout simplement. Alors, pour moi, il est important de... Il y a des jours où je suis hyper inspirée et je peux faire 10 pages. C'est de super beaux jours. Il y a des jours où je fais un paragraphe. Et puis, il y a des jours où je me contente de corriger mes fautes. Et là, je suis au bout de ma vie. Mais je consacre ce temps.
D'accord. Ouais. Et vous faites relire ce que vous écrivez au fur et à mesure ou
non.
Vous êtes...
Non, j'ai vraiment besoin d'aller au bout du processus.
D'accord. Vous seule.
Voilà, toute D'accord. seule, mmh. pour poser ce que j'ai à dire. Et la sobriété, pour moi, permet aussi d'aller en profondeur dans les choses, sans effet de style. Voilà. Juste simplement aller en profondeur de ce qu'on a à dire et à faire.
Tout à fait, vous allez en profondeur sans effet de style, c'est tout à fait ce que j'ai remarqué également. Alors le rêve du pêcheur, ce sont tous ces rêves éphémères, hein, l'argent, les biens matériels. À travers Yalana, la grand-mère de Zachary, l'un des personnages principaux, on voit comment ses rêves ont tout gâché alors qu'elle était heureuse avec une vie simple. Et si vous le voulez bien, je vais lire un extrait qui fait référence, page 65. Beaucoup plus tard, lorsque Yalana penserait à sa famille, lorsque tout serait à jamais saccagé, perdu, cette image de son mari chantant, ses mains habiles tressant le filet de pêche, ses filles jouant et le goût chaud et salé de l'air marin reviendrait la hanter. Avoir été si heureux, si pleinement à sa place et avoir eu l'arrogance de prendre cela pour acquis, ce serait la plus grande souffrance de sa vie. Au-delà des deuils impossibles, des déchirures et de la solitude, il y aurait la culpabilité sans remède d'avoir vécu ces heures-là en les trouvant presque méritées, ne pas en avoir perçu la fragilité. Elle ne cesserait de s'étonner que l'air marin soit toujours aussi doux en fin de journée, que le soleil s'effrite crépuscule après crépuscule en milliers d'éclats arc-en-ciel dans la mer. Au désastre de sa vie, à sa perte immense, répondrait l'indifférence tout aussi inconsolable de cette nature qu'elle avait crue protectrice et alliée. On sent là un message fort du livre.
Oui, peut-être l'idée que les choses passent et que rien n'est acquis, tout reste fragile. Alors, c'est vite dit comme ça, on dirait un enchaînement de pensifs. Mais dans une expérience humaine, dans une expérience de vie, je pense qu'à un moment, on se retourne et on se demande où est passé le temps.
Exactement. Ouais. Mm-hmm. Autre message fort, vous montrez que les traumatismes perdurent au sein des familles, quoi que l'on fasse pour s'en détacher. Zachary est psychologue, mais seul avec sa science, il n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est aussi un autre message fort de votre message. Et là, j'ai notamment pensé à à ce courant africain, je dirais, qui traverse tout le livre. Comment peut-être en Afrique, on a davantage conscience que les traumatismes, eh ben, ils perdurent, et quand on les attaque pas de front, et ils restent.
Oui, il y a l'idée que le corps et l'individu se soignent en même temps que la communauté. Que le mal dont on souffre, soit en tant qu'individu, est un mal qui vient de la communauté et qui impacte la communauté. Simplement, lorsqu'on est dans des géographies éclatées, lorsqu'on est dans des structures de vie qui ne permettent plus la connexion avec sa propre communauté, c'est beaucoup plus difficile d'adresser ce type de traumatisme. Et ce qui arrive à Zachary, qui ne se pose jamais la question de ses origines, il surgit dans le livre à 10 ans. Il demande à sa mère d'où il vient, parce que la communauté lui pose la question « D'où viens-tu ?» Ce qui est normal. Et il ne sait pas. Il pose la question à sa mère. Et la douleur de sa mère, son incapacité à répondre, font que l'enfant en lui se dit « Plus jamais je ne provoquerai une telle douleur, dont plus jamais je n'interrogerai les origines. » Ni pour sa mère, ni pour lui-même. Et pourtant, il est psychologue. C'est pas pour rien que ce personnage est psychologue. C'était aussi pour poser la contradiction, toutes les contradictions qu'il porte et qui le déchirent. S'il était banquier, ce serait pas pareil. Il a un métier où il sait à quel point les traumatismes du passé peuvent peser sur le présent et sur l'individu. Et pourtant, jamais, à aucun moment du livre, Zachary n'interroge ses origines. L'interdiction de la mère, la douleur de la mère, de sa mère, de Dorothée, a posé une barrière qui ne s'autorisera jamais à franchir et contre laquelle il viendra se heurter toute sa vie.
Alors, au printemps, dans un entretien pour la librairie Mola, vous disiez qu'on vit avec des lieux, qu'on les emporte avec nous. Zachary vit avec des lieux qui le hantent et qui le retrouvera vers la fin du livre. On doit donc prendre soin des lieux au risque qui nous poursuivent, hein, c'est ce que vous étiez en train de dire.
Oui, je pense qu'on vit avec des lieux. Je pense que nous sommes faits comme nous sommes faits de nos gènes. Nous sommes faits des lieux qui nous ont précédés, des lieux que nous avons traversés, des lieux que les nôtres ont traversé. Alors, les lieux, nous les traversons et ils nous traversent et ils nous habitent. Et de ne pas en avoir conscience, de ne pas savoir à quel point cet espace que nous habitons peut être important pour notre construction intime, c'est assez destructeur, finalement. Zachary ignore qu'il vient de Campo, mais il porte Campo en lui. Il porte l'Atlantique, il porte le fleuve. Quand sa mère lui dit « J'ai perdu la mer, j'ai perdu l'Atlantique, j'ai perdu mon village et j'ai perdu les gens dans toutes les pertes dont souffre Dorothée, sa mère », elle cite le lieu. Ça fait partie des pertes qui la hantent et qui l'habitent et qui lui pèsent. Et ça semble logique, ça semble normal, y compris pour nous. Enfin, je veux dire, chaque souvenir est lié à un endroit, à un lieu, à une géographie, à une trajectoire, à un chemin. Et bien sûr, il faut en prendre soin.
Ça me fait repenser à ce que vous disiez sur le fait de faire communauté.
Oui.
Est-ce que quand vous êtes à Paris et que vous voyez comment les gens vivent aujourd'hui, est-ce que souvent vous vous dites, c'est une question, vous avez envie de dire, n'oubliez pas de faire communauté.
Oui, je pense que d'abord, il y a plusieurs types de communautés et pour moi, peu importe que les communautés soient amicales, que les communautés... ça me semble impossible, d'abord d'une extrême arrogance et puis d'une impossibilité totale de se détacher de la communauté. C'est pour ça qu'il faut soigner le lien. Plus que tout, il faut soigner le lien. Et de temps en temps, on a cette philosophie aussi qui consiste à dire « deviens le meilleur de toi-même ». Je ne sais pas comment on pourrait devenir le meilleur de soi-même, soit dans son coin, seul dans son coin. Alors quoi, une espèce d'ermite? Les liens d'amour et de confrontation et de négociation quotidienne de l'espace et de partage sont extrêmement importants à l'échelle de nous, petit à petit, des communautés autour et encore plus du monde. Il y a quelque chose là que nous perdons et qui nous renferme tout et qui nous sépare et qui nous enferme dans une solitude mortifère.
Paradoxalement, dans un monde qui est toujours plus connecté numériquement, oui. On entend souvent ça, que la solitude est toujours plus présente, alors qu'on est en lien, mais ce sont souvent des faux liens parfois.
C'est-à-dire que c'est le lien algorithmique,
oui, oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas le risque de la vie. Le risque de la vie, c'est d'aller vers un lien qui vous bouscule, pas forcément un lien qui vous ressemble. Je veux dire, c'est ça. La connexion algorithmique nous met en face de liens qui vont accentuer notre solitude parce qu'ils ne donnent pas lieu à l'altérité. Ils nous interdisent toute altérité et toute confrontation avec l'autre. Et donc, ils nous interdisent vraiment de grandir et de nous interroger et de progresser, en fait. Au contraire, c'est des liens d'enfance. C'est des liens, et même au-delà de l'enfance, c'est des liens de bébé. Le lien qui vous ramène à quelque chose d'extrêmement régressif et qui vous limite, en fait. C'est pas des liens d'adultes.
Mmh. Est-ce que vous diriez que quelque part, l'Afrique a gardé ce sens-là et qu'elle pourrait aider davantage? D'ailleurs, toujours dans cet entretien pour la librairie Mola, vous disiez que c'était très important que la littérature africaine soit davantage mise en avant parce qu'il y a des messages dont peut-être le monde moderne occidental a besoin.
Oui, et je pense aussi que, hélas, l'Afrique n'est pas en dehors du monde. Et que toutes ces choses que nous déplorons, elles, bien sûr, elles traversent et elles percutent l'Afrique. Bien sûr aussi, la question du lien et de la connexion algorithmique, comme je l'appelle, et de la fragilité de la communauté, touche l'Afrique. Elle touche d'autant plus l'Afrique qu'il y a une fracturation géographique qui fait que les gens ne grandissent pas, ne s'accomplissent pas dans les lieux de leur enfance, dans les lieux qui leur appartiennent. Donc ça aussi, ça crée une forme de fragilité. Et je pense que ce que racontent aujourd'hui les écrivains africains, pendant très longtemps, la littérature africaine a été une littérature de lutte, et c'est normal. On était dans la période des indépendances, on était dans la période où l'humanité même des Africains a été interrogée. Donc les grands classiques africains ont écrit pour restaurer ce lien. Aujourd'hui, les auteurs africains écrivent non seulement la politique, mais ils écrivent l'intime. Ils écrivent ce qu'ils sont, ils écrivent le coup de ces fracturations géographiques, le coût de cette assignation et le coût finalement de dire malgré ce que nous sommes, peut-être parce que nous sommes ce que nous sommes, il est aussi attendu de nous de restaurer le monde. Mais nous sommes percutés par le monde aussi et nous devons aussi trouver notre propre chemin, notre façon de vivre et de faire famille, de faire communauté. Nous devons réinventer des liens.
Il y a effectivement vous parlez de facture géographique, cette jeunesse qui, et on ne peut pas leur en vouloir, ont envie d'Occident. Hein. Mais est-ce que dernièrement, quand vous allez en Afrique, vous sentez aussi, en tout cas par bribes, j'ai vu ces expériences-là, j'en ai observé, de jeunes qui, avec beaucoup de maturité, ressentent que leur endroit, c'est chez eux, c'est,
oui,
c'est en Afrique, et qu'il y a des choses à faire,
oui, oui,
qui pourraient éventuellement moins les aliéner qu'en partant.
Oui, oui. Oui, il y a une espèce de courant, mais c'est même pas récent. C'est-à-dire que dès que on voit en Afrique que dès qu'un pays s'apaise, dès que la situation politique devient un tant soit peu apaisée, il y a un retour, il y a une volonté de retour vers l'Afrique, il y a une volonté de retour et de construction des choses et de participer à ce projet-là. Je le vois vers les jeunes. En fait, il y a un double mouvement qui me semble intéressant à interroger. D'un côté, on a effectivement toutes ces personnes qui viennent vers le rêve occidental et qui risquent leur vie entre le désert, entre ce terrible chemin qui était déjà le chemin de l'esclavage et la Méditerranée pour arriver ici. Et puis, il y a aussi un mouvement qui consiste à revenir et à s'impliquer, un mouvement diasporique. Et il faut trouver un équilibre qui conviennent à ce double mouvement. Il me semble terrible que les personnes qui viennent, la diaspora, on vend totalement la diaspora qui arrive et qui envoie de l'argent au pays. Sauf que c'est bien sûr, mais sauf que ça inscrit aussi l'idée que rien ne peut se passer sur place, qu'il faut partir pour pouvoir s'occuper de ceux qui restent. À vrai dire, dans ce cas, qui reste ? Qui construit sur place ? À quel moment on met en place quelque chose qui nous convient ? Pour pouvoir partir sainement, pour pouvoir... Je ne dis pas de ne pas partir, d'ailleurs, mon personnage repart. Pour pouvoir partir, il faut réconcilier quelque chose. Il faut partir librement, en se disant, je peux revenir. Et je peux revenir parce que j'ai construit quelque chose. Et c'est cette vacuité, un peu cette idée de partir pour de bon, parce qu'il n'y a rien derrière, c'est ça qui est terrible.
Mmh. Je disais que vous parliez également de l'exploitation forestière et celle des ressources halieutiques. Vous en parlez de façon indirecte, à travers l'expérience vécue par vos personnages. Mais vous, en tant que citoyenne, notamment quand vous êtes en Afrique, quels sentiments ces exploitations qui... Alors, je ne veux pas trop généraliser, il y en a qui doivent se faire dans les normes, mais il y a quand même toujours un problème, je pense, même aux exploitations minières pour les terres rares, hein, au Congo, et qui se font dans des conditions assez déplorables. Ça vous désole, ça vous enrage, quel sentiment
Ça m'arrage. Ce qui m'arrache, ce n'est pas qu'on exploite les richesses. Je ne suis pas, attendons-nous bien, je ne suis pas dans un temps anachronique où on ne doit pas progresser, où on doit rester tout le temps dans le même état, dans le même moment. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est, ce qui m'enrage, c'est à quel point ces richesses font l'objet d'une prédation à la fois internationale et à la fois avec des dirigeants locaux. À quel point ils ne viennent pas... améliorer la vie des populations, mais qu'ils viennent les aliéner encore plus et qu'elles se font exploiter
ça,
encore plus.
Vous le continuez à l'observer.
Bien sûr, il y a des lieux de conflit importants. C'est rarement des conflits idéologiques. On parle de religion, on parle de différences irréconciliables entre humains. C'est rarement ça. Les conflits sont d'abord le fruit d'une avidité économique. D'abord, le fruit d'une prédation qui vient prendre tout le vernis qu'on veut derrière. Mais la base, c'est ça. Oui, ça m'arrache. Et le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. On ne peut que l'observer. On ne peut qu'observer à quel point, aujourd'hui encore, l'Afrique continue à être pillée. Et la force qui pille, la force qui déstructure est tellement importante que il faut trouver d'autres façons de se déployer et de réfléchir.
Et ce que j'aime, par rapport à ça, ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est un petit peu comme le passage que je viens de lire, c'est que cette rage, et je pense que c'est la meilleure façon de faire passer un message, c'est de dire voilà, il y a ça. Et regardez ce que ça peut créer. Mais on sent pas de ton vindicatif, hein, dans votre prose. Et ça, c'est important, je pense.
Parce que c'est un roman, je veux dire, je suis pas dans d'autres aspects de ma vie, je peux être engagée différemment. Mais je trouve que ce que offre le roman, c'est la possibilité de s'approprier des vies. Il m'est plus facile de dire, voici ce qui arrive à Zacharias, Yalana et leurs enfants Dorothée et encore les petits-enfants derrière. Je peux raconter une vie. Alors tout d'un coup, les gens ont un nom, ils ont un lieu, ils ont un visage et le reste du monde peut se l'approprier. Quand je discute avec les pêcheurs des Côtes d'Armor, j'ai fait une tournée dans les Côtes d'Armor, dans plusieurs médiathèques. Je peux vous dire qu'avec les pêcheurs qui sont là, on était à deux doigts de sortir faire la révolution tellement ils étaient en accord et en adéquation avec ce qui était raconté dans ce livre, parce que cette prédation est la même partout. Elle prend cette forme-là à Campo, mais on la sent, cette prédation. C'est aussi ce qui génère notre angoisse, l'angoisse des temps présents.
Il est également important, c'est vous qui le dites, de faire rayonner la littérature des pays du Sud. On l'a déjà mentionné, vous intervenez d'ailleurs dans des colloques et des festivals un peu partout dans le monde. Toujours dans une idée de, comment l'appeler, de rééquilibrage, qu'il s'agisse de littérature ou même de façon de vivre. Parce qu'on sent ça quand même dans ce que vous écrivez.
Ouais.
Et c'est ça que j'aime beaucoup aimer. Il y a un message subliminal. Il y a plusieurs messages subliminaux. Et c'est pour ça qu'ils sont très très forts. C'est parce qu'ils sont dits avec, sur un ton apaisé, mais on les sent. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans votre livre, c'est tous ces messages en tant qu'occidental. J'ai compris et je me suis dit, je me dis quand on lit votre livre, on se dit, oh là là, il y a vraiment quelque chose à faire.
Ouais. J'ai de la chance. J'ai la chance de faire le métier qui me passionne, de rencontrer plein de gens, d'avoir plusieurs tribunes, de pouvoir, parce que je suis une artiste et que les artistes ont cette chance-là, de traverser les milieux, les gens auxquels j'aurais pas eu accès forcément autrement. Alors, j'essaie en toute sincérité, c'est ce qui me porte le plus, ce dont j'ai le plus envie, que ce soit dans mon écriture ou dans mes prises de parole ou dans ma vie, c'est d'être en totale sincérité avec ce que j'ai envie de dire. Et bien sûr, il faut trouver le temps, il faut trouver la manière, mais le fond, c'est celui-là.
Mmh. Vous vivez à... Oui, pardon.
Oui. Oui.
Vous vivez à Paris ?
Oui, je vis à Paris. Voilà.
Et vous allez au Cameroun
Je vais régulièrement au Cameroun.
Régulièrement, plusieurs fois par an.
Plusieurs fois par an. J'ai ma famille qui vit, mes parents, et donc j'y vais une ou deux fois par an.
Où ça ?
À Douala.
À Douala, hein. Oui, d'accord.
Oui,
donc sur la côte.
C'est ça. Mmh. J'organise des événements, des ateliers d'écriture.
Vous impliquez.
Je m'implique à Douala, je m'implique à Abidjan. Je m'implique à Dakar, enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup agir aussi, interagir avec les artistes, les jeunes écrivains, du continent. Ouais. C'est une confrontation, enfin confrontation dans le bon sens du terme, c'est une rencontre qui est très passionnelle et que j'aime beaucoup aussi, mm-hmm. qui me nourrit.
Alors, je ne pensais pas en parler, mais je ne peux pas m'en empêcher. Évidemment, vous le savez comme moi, que dernièrement, il y a eu la réélection de Paul Biya,
oui.
92 ans. Hein. Et alors, on ne va pas parler politique, mais oui. Quelque part, donc ça chauffe un peu hein, au Cameroun
oui.
en ce moment.
Oui.
Vous êtes optimiste quand même sur le moyen terme ? Enfin, il faut l'être, évidemment. Mais
Oui, je pense qu'il y a pas, je n'ai pas d'autre choix que d'être optimiste.
Parce qu'il a 92 ans,
comme disait une de mes amies. Mmh. Mais je vois quand même ce qui arrive à ce pays, comment ce vieillard et sa clique sont en train de nous entraîner dans leur lente et trop longue agonie. 75% de la population au Cameroun a moins de 30 ans. C'est un pays éminemment jeune. Il y a une énergie extraordinaire. Je connais des tas de Camerounais dans le monde qui sont dans des espèces de starting block émotionnels, juste prêts à ce que les portes s'ouvrent pour s'investir dans ce pays et faire des choses. Et puis on a cet homme qui, dans son immense indifférence et son immense... détachement est décidé à rester là jusqu'au bout, jusqu'à 99 ans, ça c'est 7 ans, jusqu'à 99 ans, il est décidé à entraîner toute cette population dans sa tombe. Et à côté de ça aussi, je connais très bien la situation politique. Vous n'auriez pas dû me lancer là-dedans. À côté de ça, oui, une opposition tellement déstructurée et tellement... Nous avons si peu confiance. Chaque génération au Cameroun a mené sa révolution et son combat et l'a perdu. Et nous sommes aujourd'hui dans une espèce de sidération et le découragement ne vient pas du fait que... du fait que nous doutons de nos capacités. Le découragement vient du fait que du manque de confiance. Tout d'un coup, nous doutons. Nous doutons de nous-mêmes. Nous doutons de notre capacité à réagir. Nous doutons et nous souffrons de cette sidération dans laquelle 43 ans ou 50 ans de pouvoir peuvent nous avoir figés.
Mmh. Alors peut-être par rapport à ce que vous disiez précédemment, le fait qu'il y a cette jeunesse qui a envie de revenir, donc on peut penser qu'il y aura davantage d'élan structuré à l'avenir. Et ça me fait penser aussi à ce que vous disiez sur l'avidité, que fait le pouvoir, ce que fait l'avidité, que ce soit en Afrique ou même on le voit aujourd'hui, que ce soit en Russie ou ailleurs, c'est fou ce que ça peut faire à un homme.
C'est dingue. Et en fait, la seule chose qui protège les sociétés occidentales, c'est que les institutions sont suffisamment puissantes pour faire partir les hommes. Si on les laissait, ils resteraient là 50 ans. Hein. C'est clair.
C'est ça.
On voit bien à quel point ils n'ont jamais envie de partir. Il faut littéralement les arracher pour les faire partir. Et là, on est dans des systèmes où, on peut rester. Et aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est dans la rue, mais elle était déjà dans la rue il y a 10 ans. On ne peut pas nier le fait que les gens sans arrêt s'investissent pour faire bouger les choses. Mais ce qui nous englue, la puissance de ce qui nous englue est telle que, c'est très difficile. C'est-à-dire cette réélection, encore une fois, bien sûr...
Dimanche dernier.
Oui, bien sûr, il est possible que ça passe et que ça s'installe. Hein. Mais la révolte que nous portons en nous, je parle aussi pour moi en tant que Camerounais. Je parle de mon père. Mon père est un vieux révolutionnaire qui est prêt. Il me disait qu'il était prêt à descendre dans la rue. Il me fait trop rire, je veux dire, avec son rhumatisme et tout, je veux bien. Mais cet élan traverse la société avec une force immense. Et ça ne restera pas, je pense que ça ne restera pas, muet. À un moment ou à un autre, cette chose va s'exprimer. Mmh. Et j'espère que ce sera pour le meilleur.
Vous, personnellement, qu'est-ce que l'Afrique vous apporte?
Je suis partie de mon... Je suis née, j'ai grandi au Cameroun. Je suis partie du Cameroun pour mes études à 21 ans. Je suis revenue. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. L'Afrique m'a littéralement construite. Elle m'a donné une ossature, une structure et un regard sur le monde. Et dans ce que je fais, dans ce que j'accomplis aussi et dans mon rapport aux autres, j'ai sans arrêt à cœur de rendre ce qui m'a été donné avec tant de générosité. L'Afrique a toujours, et quand je parle de l'Afrique, je sais que c'est pas un lieu, je sais que c'est plusieurs pays, plusieurs cultures. J'ai eu la chance de la parcourir et elle m'a donné, elle m'a offert tant de choses et avec une grande générosité. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur à la fois de rendre et à la fois d'expliquer au monde que je traverse en disant je suis ce que je suis aussi parce que je viens de là. J'écris de quelque part.
Mmh. Voilà. Et en ce moment, qu'est-ce que vous écrivez?
Ah.
Sans rentrer évidemment trop dans les détails.
Alors je suis en train de terminer un manuscrit, mais comme je suis extrêmement, je veux pas dire les choses de peur qu'elles n'adviennent pas, alors je n'en dirai pas davantage.
Vous êtes en train de le terminer.
Mais je suis en train de le terminer.
Quand vous dites vous êtes en train de le terminer, il est terminé et vous le peaufinez, ou alors c'est encore en train d'être terminé?
Disons que si tout se passe comme je le souhaite, alors le livre sortira pour l'automne prochain.
D'accord, pour l'automne prochain.
C'est ça.
Bon, on l'attend avec impatience.
Oui, je touche du bois.
Emily Boom, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Je sais que vous avez un agenda, vous allez à Cluj, et vous avez un agenda très chargé en tout cas. Et merci encore une fois à la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie à Bucarest pour avoir facilité cette rencontre. Merci et à bientôt.
Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un agréable week-end. Et d'ailleurs, si vous voulez vous procurer le livre de Emily Boom, Le rêve du pêcheur, vous pouvez tout à fait le commander, par exemple, à la librairie Kiralina, la librairie française de Bucarest, ou ailleurs. Mais éventuellement, c'est aussi un lieu où vous pouvez vous procurer le livre que je vous recommande vivement. Merci, week-end plakout. Au revoir.